Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Yann Sinik, réalisateur du documentaire qui va passer aujourd'hui même au Théâtre de Die, qui s'appelle La conscience de Svevo. Donc c'est un film documentaire qui a été réalisé il y a une quinzaine d'années et qui, je suppose, est en phase avec le sujet, à savoir Trieste. Non seulement il va passer ce soir à 18h au Théâtre de Die, mais aussi mardi 1er octobre à 10h, toujours au Théâtre de Die. Et je suppose qu'il parle d'un certain Italo Svevo, qui était un écrivain triestin italien. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'étais très rapidement, j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi.
Non, non, tout est juste.
Et donc, qui était cet Italo Svevo et pourquoi mérite-t-il qu'on en parle encore aujourd'hui ?
Alors, Italo Svevo, aujourd'hui, est peut-être pas encore très connu en France. Il est très connu en Italie, comme peut-être Maupassant l'est en France. C'est un écrivain qui est, je crois, beaucoup lu par les jeunes lycéens italiens. C'est un écrivain qui finalement peut-être est l'écrivain le plus célèbre de Trieste, même si beaucoup d'auteurs sont passés dans cette ville, comme Rilke, comme Stendhal, comme Joyce. Svevo, lui, a passé toute sa vie à Trieste. Il y a publié tous ses livres et tous ses livres se passent à Trieste. Donc c'est un écrivain qui est mort il y a pas mal de temps parce qu'il était à cheval sur les deux siècles, les siècles précédents. Il est mort en 1928. Et il était né en 1861. C'est quelqu'un qui fait un petit peu qui a fait le passage, on va dire. Et c'est aussi un écrivain qui est devenu plutôt célèbre après sa mort. C'est quelqu'un qui a très peu, et c'était un vrai problème pour lui, eu de reconnaissance quand il écrivait. Il a d'ailleurs publié tous ses livres à compte d'auteur. Et puis, 2 ans avant sa mort, grâce aux Français notamment, qui ont beaucoup aimé La conscience de Svevo, qui est son dernier livre, il a eu une certaine reconnaissance et il est mort.
Donc il est resté toute sa vie pauvre et frustré.
Ah, pauvre, pas vraiment, parce que je lisais il y a quelques jours que ses amis triestins qui voulaient lui faire plaisir lui disaient, non pas qu'il était un bon écrivain, mais que c'était un très bon industriel et un bon financier. Alors il disait lui-même que ni l'un ni l'autre n'était vrai, c'était pas un bon écrivain, enfin. Il a toujours été très dur avec lui-même. Et ce n'était pas non plus un bon financier. Mais c'est quand même quelqu'un qui a bien vécu et qui d'abord travaillait à la banque quand il était plus jeune et qui ensuite a travaillé dans une industrie, dans une entreprise de peinture pour bateaux que dirigeaient ses beaux-parents. Et donc c'était plutôt un bourgeois dans les dernières années de sa vie.
C'était donc pas un artiste maudit et qui souffre de ne pas pouvoir placer ses livres alors ?
Ça dépend ce qu'on entend par un artiste maudit. Si un artiste maudit est un artiste qui vit, comme dans la chanson, une certaine bohème, effectivement, non, c'est pas vraiment l'histoire de Svevo. Il aurait peut-être bien aimé, d'ailleurs, comme son ami peintre, Veruda. Veruda, son ami peintre, était vraiment un artiste bohème. Et c'est quelqu'un qui l'a accompagné dans les premières années de sa vie et qui lui a donné la force d'écrire son premier livre. Mais je pense qu'en même temps, quelqu'un comme Svevo avait besoin de cette vie bourgeoise pour pouvoir écrire son grand livre. Et son grand livre, c'est le dernier. Ça, c'est tout à fait subjectif, mais son grand livre, c'est La conscience de Svevo.
Alors justement, quels sont les thèmes qu'il aborde dans sa littérature ?
Eh bien, c'est un écrivain qui a découvert la psychanalyse très tôt. Je veux dire par là, pas très tôt dans son travail d'écrivain, puisqu'il a commencé à écrire ses deux premiers livres, Senelita et Une vie, avant que finalement on entende parler, en tout cas à Trieste, de Freud. Par contre, comme il le dira lui-même, il faisait déjà de la psychanalyse sans savoir. Enfin, c'est pas vraiment de la psychanalyse, mais c'est vraiment un écrivain de l'introspection. C'est-à-dire que tous ces personnages sont des doubles de lui-même. Et j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus dans quel ordre il a écrit Une vie ou Senelita. Mais disons que ce sont toujours des personnages qui lui ressemblent dans l'instant. Et vous parliez de la période de bohème ou des difficultés d'un écrivain qui a du mal à se faire publier ou qui a du mal à vivre de son travail. Et en fait, ses premiers livres parlent de ça. De ses premiers personnages, par exemple, travaillent à la banque, tout comme lui. Ce sont des livres où il se raconte beaucoup, où il est finalement assez dur avec lui-même. On comprend bien que ces personnages sont des doubles de lui-même parce qu'il a aussi beaucoup écrit de lettres, de journaux, d'écrits intimes. Et moi, j'ai découvert Svevo comme ça. Donc j'ai découvert Svevo quand il parlait de lui directement, sans se cacher derrière un personnage. Et du coup, je le fais souvent pour des écrivains que j'ai envie de découvrir. Je commence avant tout par leurs écrits intimes, par leurs journaux, par leurs correspondances, ou par des livres réellement, enfin, autobiographiques. Et j'ai fait la même chose avec Svevo, c'est-à-dire que j'ai commencé par les lettres qu'il écrivait à sa fiancée. J'ai commencé par ses écrits de jeunesse et des petites. Il tenait un journal. C'était quelqu'un de très obsessionnel, qui écrivait régulièrement à la même heure, qui était obsédé par l'idée d'arrêter de fumer. Et qui,
sans y arriver ?
Sans jamais y arriver.
Ça, avec, c'est dur, ça.
Voilà. Et qui a toujours beaucoup, beaucoup fumé. Mais je me perds un peu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut m'interrompre.
Pas du tout. Pourquoi faire ?
Non, disons que je reviens sur ce qui définit ces livres. Moi, j'ai toujours envie de parler du dernier livre, La conscience de Zeno, parce que ce qu'il y a d'unique dans ce roman-là, c'est que c'est la première fois qu'on évoque la psychanalyse dans un roman. Et Svevo a découvert Freud quelques années avant. Il a traduit Freud avec un ami et il dira qu'il est assez peu touché par l'écriture, par le style de Freud. Et le style a toujours été quelque chose de très très important pour Svevo. Son propre style, son écriture, sa langue, c'est un triestin, donc il est devenu réellement italien qu'à partir de 1918, c'est-à-dire 10 ans seulement avant sa mort. Mais il a choisi très tôt d'écrire en italien, qui n'était pas sa langue naturelle, on va dire. Donc le style a toujours été une obsession aussi, une de plus. Il a toujours voulu écrire en italien, il a toujours regretté de ne pas assez bien savoir écrire. Et beaucoup de gens lui reprochaient d'ailleurs. Donc, je reviens à La conscience de Zeno. C'est vraiment un livre qui a marqué l'histoire de la littérature sur ce point-là. C'est la première fois qu'on évoquait la psychanalyse. Puisque le contexte, je vais parler un petit peu du contexte, il s'agit d'un vieil homme bourgeois qui décide d'entamer une cure et qui, parce qu'un médecin lui a demandé, décide de raconter sa vie. Voilà l'histoire de la conscience de Zeno. Et Zeno, bien sûr, une fois encore, comme dans les deux précédents romans de Svevo, c'est Svevo et Zeno. C'est la même chose.
Retrouve-t-on dans sa littérature cette nostalgie des Habsbourg qu'on peut retrouver un petit peu dans Trieste souvent, puisque ce mythe d'un âge d'or, après que Trieste a été coupé de son arrière-pays, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'on le retrouve dans sa littérature ?
Disons qu'on le retrouve dans Trieste, cette grande présence de l'histoire. Après, alors je sais que j'ai fait un film sur Svevo, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas un spécialiste de Svevo. Je dirais juste comme ça, intuitivement, que non, Svevo était beaucoup plus attaché à la culture italienne qu'à ses origines, enfin, comment dire. Même si quelqu'un disait, j'ai présenté le film il y a 2 jours à Bourg-les-Valences, quelqu'un dans la salle a fait une remarque très juste, quelqu'un qui connaissait bien Svevo, et c'est toujours le cas d'ailleurs quand des spectateurs viennent voir ce film. Certaines personnes me parlent de Svevo d'une façon différente, ils m'apprennent beaucoup de choses. D'autant plus que ça fait quand même 15 ans que je ne me suis pas vraiment repenché sur cet auteur que j'ai presque jamais relu depuis. Quelqu'un disait qu'un critique de l'époque reprochait à Svevo de mal écrire en italien, ce qu'il pourrait très bien écrire en allemand. Et quelqu'un complétait dans la salle en disant qu'il avait sans doute un esprit, une structure mentale très autrichienne, et que malgré tout, il s'acharnait à vouloir écrire en italien, alors qu'il parlait le dialecte triestin. Et je pense que non, il n'y a pas cette nostalgie, pas du tout, dans les livres de Svevo, bien au contraire.
Il tournait vers l'avenir, quoi.
Complètement, c'est quelqu'un de très... Bah déjà, le fait d'introduire la psychanalyse dans un roman, quelques années après seulement, qu'on commence à en parler en Italie, c'est quelqu'un qui était assez obsédé par le progrès, qui a été très marqué aussi par la guerre. Guerre qui lui a quand même permis de se repencher sur la littérature qu'il avait choisi d'oublier, parce qu'il souffrait beaucoup de ne pas avoir de reconnaissance. C'est quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à ça. Il aurait aimé que ses livres soient lus. il aurait aimé qu'on en parle. Et quand il a vu qu'après la publication de son deuxième roman, eh bien, en dehors des quelques amis à qui il avait distribué ses livres, qu'il avait d'ailleurs tous édités à compte d'auteur, il a été profondément affecté par ça et il a choisi d'arrêter la littérature. Il a choisi de penser à autre chose à chaque fois que le désir d'écrire lui revenait. Soit il prenait son violon, dont il jouait pas très très bien, soit il s'investissait à fond dans le travail. Et cette question-là sur la nostalgie, et je pense que non, vraiment pas, vraiment pas. Cette ville, elle est marquée par tout ça, c'est sûr. Et Svevo, je pense que ça ferait bondir des gens de dire qu'il a rien de triestin, bien évidemment que si. La Trieste est au cœur de tous ses livres, c'est presque un personnage, on pourrait dire.
Alors, quel intérêt un lecteur actuel a-t-il de lire encore du Svevo? C'est pas dépassé, c'est...
Ah non, oui, surtout la conscience. Eh bien, justement, moi, ce qui m'a séduit, je le disais, c'est cette démarche, c'est l'introspection. Ça reste toujours contemporain. Je vais faire un lien. Je ne sais pas si on peut vraiment le faire. J'étais, il y a quelque temps, touché par un livre de James Ellroy, par cette lucidité sur lui-même. C'est ma part d'ombre. Alors, James Ellroy, c'est oui. Un écrivain qui n'a pas grand rapport avec Svevo. Le seul que moi je trouve, c'est ce qui me séduit chez beaucoup d'auteurs, c'est ce besoin qu'ils ont de passer par l'écrit pour se comprendre eux-mêmes. Et cette façon aussi peut-être parfois très impudique. Ce que Svevo n'était pas, c'est pas quelqu'un d'impudique. Il a toujours eu le besoin d'inventer un personnage qui lui ressemble beaucoup, mais pas tout à fait non plus. Je pense qu'il avait aussi besoin de le faire parce que finalement Trieste est une petite ville. Et ses premiers lecteurs, c'était ses amis. Quand il a fini d'écrire La conscience de Zeno, par exemple, l'un de ses amis, psychanalyste, l'un des premiers à Trieste, est venu le voir en lui disant « Est-ce que le psychanalyste dont tu parles dans ton livre, c'est moi ?» Il dit non, mais non, bien sûr que non. Mais disons que c'était quelqu'un qui travestissait un petit peu, qui se déguisait un petit peu, mais personne n'était dupe, tout le monde savait bien qu'il parlait de lui, et qu'il parlait de sa femme, qu'il parlait de ses amis, de Veruda par exemple, son ami peintre dont je parlais tout à l'heure. Et déjà, c'est ce qui fait que ses romans sont bien sûr toujours d'actualité, enfin, bien sûr, bien évidemment.
Alors moi, il y a quelque chose que tu as dit qui me chagrine un tantinet, quand tu parlais à la fois de lucidité et d'être dur avec soi-même. Mmh. Or, pour moi, c'est quasiment antinomique, dans le sens où être dur avec soi-même, c'est avoir des lunettes noirâtres.
Ah,
donc,
oui.
C'est pas lucide, c'est être orienté. Parce que si notre vraie nature, c'est le bonheur, d'après certaines traditions philosophiques, de voir les choses à travers des lunettes noirâtres, c'est pas lucide, c'est triste.
Être dur est peut-être pas le bon mot, alors. Être lucide, voilà. Être lucide, c'est pas forcément être tout le temps positif. Donc Svevo se moque de lui-même. Il a beaucoup d'humour, Svevo. Et quand je dis qu'il est dur, se voir tel qu'on est, c'est parfois dur. C'est parfois dur, mais c'est pas porter des lunettes noires. Alors je pensais que ce qui pouvait surprendre, c'est le parallèle que j'avais fait avec James Ellroy, qui est aussi quelqu'un de sombre, de très dur. Mais cette dureté, on peut la retrouver aussi dans les mots de Sartre, qui est un écrit autobiographique où moi j'ai été stupéfait, profondément touché par la clarté d'esprit, l'intelligence de quelqu'un comme Sartre, qui, je parle de lui parce que ça a un lien avec ce que vous dites, hein, qui porte un regard très dur, on va le dire comme ça, sur son enfance, sur l'enfant qu'il était, sur comme si c'était un autre. Mais je pense que c'est quelque chose qui rend plus fort et qui nous amoindrit pas. Enfin, comment...
Oh si, moi je pense que c'est limitant quand même. Hein. Je vais te citer un petit proverbe latin que j'adore, c'est « In circuitu impi ambulant ». En circuit fermé tournent les impies. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en autre chose, ils sont bloqués par la matière, ils sont trop prosaïques. Et de se regarder, de se regarder soi-même en se disant « Ah, c'est comme ça que je suis, j'aurais bien voulu arrêter de fumer, mais j'en serais toute ma vie incapable », je trouve ça... vraiment triste en fait, parce qu'on s'auto-limite dans ce point de vue-là. Hein.
Bah alors pour reprendre cette image de le fait d'arrêter de fumer, Svevo n'aurait jamais dit « mais j'en serais incapable ».
Mais il en a été incapable.
Sauf à la fin de sa vie, au moment de mourir, il a demandé une dernière cigarette en disant « cette fois-ci au moins ça sera la dernière ». Mais il y a une phrase que je ne suis pas capable de citer parce que j'aurais dû prendre le livre La conscience de Zeno. Il y a très peu de phrases dans mon film, très peu de citations. Il y en a une seulement. Et où justement il est question de ça, de ce qu'apporte l'écriture dans une vie. Et l'importance que c'est, j'arriverai pas à la citer de tête, mais c'est pour ça qu'il faut venir voir le film comme ça. Il y a cette citation vers la fin du film où il explique sa démarche. Et je la trouve très positive, si toutefois je peux... Moi, je dis ça pour...
Contrebalancer ce que je dis.
Voilà, exactement.
Disu tout à l'heure.
Parce que ça, c'est... Voilà une raison, c'est pas une question que vous m'avez posée, mais c'est quand même la raison qui m'a poussé à faire un film sur Zbevo, parce que moi, je me sens très proche de cette démarche-là. Je le suis encore, c'est-à-dire que quand je suis amené à projeter un film comme celui-ci, comme La conscience de Zbevo, qui est un film qui a 15 ans, enfin que j'ai tourné en 98... J'ai monté en 99 et il est peut-être sorti en 2000. Je trouve que c'est très important d'être lucide sur mon travail, de voir ce qui a changé, de voir tout ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Et ça ne me mine pas. Ça me rend plus fort, je dirais. C'est-à-dire que... Et je n'ai pas non plus l'impression d'être en circuit fermé. C'est très important de pouvoir poser sur le papier ou... ce qu'on est, ce qu'on a été. Alors je parlais de Sartre qui évoque son enfance dans les mots. On peut le faire justement quand on est sorti de là, quand on est sorti de ce cercle dont vous parliez. On ne peut pas le faire quand on est dedans. Et peut-être que pour en sortir, il faut le faire justement. Il faut coucher sur le papier, il faut en faire un film. Moi, j'ai toujours fait des films très intimistes. Même celui-ci, La conscience de Zbevo, qui est sans doute l'un des films les plus classiques que j'ai fait, et c'est le premier film. J'avais besoin de faire un documentaire. J'étais très marqué à l'époque par cette série qui passait il y a 20 ans sur France 3, Un siècle d'écrivains, qui m'avait beaucoup plu. Et encore plus marqué par les films de Robert Bobert et Pierre Dumayet, que j'avais vus. Et en revoyant ce film, je vois que c'est un film sous influence. Mais malgré tout, malgré le côté classique de ce film... L'entrée en matière, l'introduction, peut sembler complètement incongrue. Je parle de moi, et je parle de mon grand-père. Et je fais un lien entre l'importance qu'a pu avoir mon grand-père dans ma vie, dans mon enfance, au moment de mon enfance, et le lien que j'ai avec un écrivain comme Italo Zbevo. Je ne sais pas si beaucoup ont ce sentiment, mais quand on commence par lire des livres très autobiographiques ou des écrits intimes, quand on découvre la correspondance d'un écrivain ou d'un cinéaste, comme par exemple Truffaut a pu... Truffaut est un cinéaste que j'aime beaucoup, mais dont j'aime presque plus. J'aime finalement beaucoup les films, mais ce n'est pas ce que j'aime le plus. J'aime l'homme aussi. J'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il a pu raconter sur le cinéma, j'aime sa voix, j'aime ce qu'il a écrit. Et j'ai beaucoup lu sa correspondance. Et quand on passe du temps comme ça avec quelqu'un, dans son intimité, quand on est presque un voyeur, parce que des écrits intimes, bien souvent, ne sont pas faits pour être publiés, mais pour soi-même. On a l'impression que ces gens-là font partie de notre famille. Donc, le démarrage de La conscience de Zbevo, c'est pas très classique. Je parle de moi, je dis je, et la voix d'ailleurs du film est toujours à la première personne. Et ça, c'est aussi pour cette raison que Zbevo m'a plu. C'est ce manque de pudeur, peut-être. C'est parce que cette lucidité que Zbevo a sur lui-même, je pense l'avoir aussi. Je pense que... Je peux être dur sur mon travail, sur moi-même, et que c'est très important de poser comme ça. Chaque film, chaque livre est une étape qui nous permet aussi de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru, même si le chemin n'est pas forcément une marche en avant. Voilà, je partage pas tout à fait votre point de vue, en fait, pour conclure.
Très bien.
Sur ce point.
Qu'à cela ne tienne. Mais alors, si d'aventure on devait faire un peu l'article de cette projection qui va avoir lieu ce soir même et demain, quel argument employeriez-vous pour vendre ce film ? Quel intérêt aurait le vulgum pecus, un Pékin moyen, d'aller voir La conscience de Zbevo ?
Alors, je pense que les raisons qui m'ont poussé à faire le film sont aussi toujours d'actualité, comme les livres de Zbevo dont vous parliez. C'est-à-dire que je trouvais assez injuste que, encore aujourd'hui, en Italie en tout cas, beaucoup de gens reprochent à Zbevo de ne pas savoir écrire. Mais comme je le dis dans le film, Zbevo était beaucoup plus préoccupé par la vérité que par la beauté. Je ne sais pas si Zbevo écrivait vraiment bien, mais La conscience de Zeno est un livre capital. Et j'ai fait ce film aussi avec l'intention d'en parler, de le faire connaître un peu plus. Je trouvais par exemple assez injuste dans les années 2000, enfin 90-2000, quand cette série documentaire, Un siècle d'écrivains, je trouvais injuste que Zuevo n'en fasse pas partie, parce que c'est un écrivain qui a marqué le siècle et qui a beaucoup compté pour d'autres grands. Et Joyce par exemple a beaucoup aimé Zuevo. Et Joyce est un écrivain immense. Il n'y a pas de grand rapport entre leur littérature, mais c'est quelqu'un qui, lui, n'est pas passé à côté de Zuevo. Et donc, la première des raisons, pour ceux qui ne connaissent pas Zuevo, c'est peut-être, je pense que ce film est une bonne introduction, peut donner envie de le lire. Il y a d'ailleurs, alors que ce n'était pas mon intention, il y a d'ailleurs très peu de citations d'extraits de ses livres dans le film. Je relisais les notes que j'ai pu écrire à l'époque où mon intention, c'était au contraire de faire un film avec beaucoup de citations. Et finalement, non, il y en a très très peu. Et je crois que dans le fond, c'est ce qui peut aussi donner envie de lire La Conscience ou de lire Les Écrits Intimes ou Senelita. Voilà, donc ça, c'est la première raison. Si vous me demandez de vendre le film, mais je ne suis pas très bon pour ça, hein, surtout 15 ans après, mais...
On y retrouve un peu cette qualité d'introspection, de lucidité dont vous parliez un petit peu.
Ça, je sais pas. C'est pas à moi de le dire, mais...
Vous êtes quand même le réalisateur.
Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus présent dans le reste de... dans les films que j'ai pu faire après. Disons que c'était très important de commencer à faire des films avec celui-ci pour moi, parce que c'est comme une profession de foi. C'est-à-dire que je me rends compte aussi en revoyant le film que je parle moins de la littérature de Zuevo que de son obsession. Que de ses obsessions, et surtout une, celle... Il était obsédé par l'idée de destin. Il était obsédé, comme finalement très peu d'auteurs, je crois, par la reconnaissance. Il ne pensait qu'à ça. J'ai relu hier des petits textes autobiographiques où il raconte des petites notices, soit écrites par des amis, soit des petits textes rédigés par lui, où il raconte sa vie. On voit qu'en permanence, il est obsédé par ça, par la reconnaissance. Et c'est pas... Vous me questionniez au début pour savoir si c'était quelqu'un qui avait vécu dans la pauvreté. Et non, c'est pas quelqu'un qui avait les difficultés que Joyce a pu connaître, par exemple.
Ou alors Knut Hamsun, qu'il décrit dans La Faim, je sais pas si vous connaissez ce bouquin. Bah, c'est l'histoire d'un écrivain qui meurt de faim, concrètement. Il meurt de faim et les gens croient qu'il est fou. Mais en fait, non, il est tout simplement... Il vend tellement peu de livres qu'il est en train de mourir de faim devant tout le monde.
D'accord.
Et c'est assez tragique, quoi. Enfin bon,
ouais, bien sûr, mais Rilke parle de ça aussi. Mmh. Rilke a souffert de ça beaucoup. Pas Zuevo, enfin, il me semble pas, très vite. Il a une vie de bourgeois, il s'est marié avec sa cousine, plus jeune que lui. Il a travaillé dans l'usine de ses beaux-parents. Enfin, ce problème-là, enfin, il n'y avait plus de problème. Même si il s'est mis très jeune à travailler parce que son père a fait faillite et que, bon, c'était pas sa préoccupation. Mais par contre, il était vraiment obsédé par cette idée de reconnaissance. Et le film parle beaucoup de ça. Et je crois que c'est quelque chose qui devait beaucoup me préoccuper aussi. Et c'était mon premier film. Et je me questionnais, comme Zuevo peut le faire très souvent, sur ce que j'allais réussir à écrire, à construire dans l'avenir. Enfin, ce que j'allais réussir à faire, quels allaient être mes autres films, quels... Voilà, donc vous me demandiez s'il y avait cette introspection dans le film. Alors voilà, c'est ma réponse.
Et c'est un film dont on ne sort pas encore plus névrosé qu'au début.
C'est bien que vous évoquiez ça, parce que vous suggérez d'une certaine façon le fait qu'il y a aussi une identification. Je me suis un petit peu identifié à Zuevo sur ce point-là aussi, c'est certain. C'est-à-dire que c'est un obsessionnel, Zuevo. Quelqu'un qui est obsédé par les chiffres, qui a des rituels, qui... c'est marrant parce que j'ai l'impression que... Bon, moi je l'étais aussi beaucoup et j'ai l'impression d'être un peu sorti de tout ça. Et du coup, j'ai du mal à me souvenir. Tant mieux. J'ai pas envie de me repencher là-dessus, mais je sais que... je sais pas si on en sort plus névrosé. Zuevo... À la fin de sa vie, quand il s'est lancé dans l'écriture de La Conscience de Zeno, justement, je lisais hier quelques petits textes qu'il a écrits après La Conscience de Zeno, où il raconte que son rapport à la psychanalyse, où il avertit le lecteur en disant « N'ayez pas peur ». Bien sûr, ça parle de psychanalyse, mais j'ai cru en faire. J'ai cru que ce livre avait été J'avais écrit ce livre sous l'influence de Freud, mais pas du tout. Tous les psychanalystes me disent que ça n'a rien à voir, ce que je raconte. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, était très apaisé et qui n'avait pas envie, comme il le disait dans ce petit texte, il avait beaucoup de tendresse pour sa maladie. Je ne sais pas, c'est une fin bizarre, mais c'est peut-être pas une fin de tout, hein, mais...
Bah, Yann Sinik, merci de nous avoir livré toutes ces considérations de haute volée. Je rappelle quelques éléments pour voir ce film. Ça va se passer ce soir même à 18h au Théâtre de Die. Demain, mardi 1er à 10h au Théâtre de Die. Si vous avez envie d'avoir des renseignements, vous pouvez téléphoner au 04 75 22 12 52 et vous avez toujours le site internet du Festival Est-Ouest, www.est-ouest.com. Est-ce que tu voudrais terminer par une dernière petite...
Oui, ça me paraît important de dire qu'en fait, mon film est diffusé à 18h, juste après, ou à 20h, il me semble, il y a le film de Mathieu Amalric, Le Stade de Wimbledon. Et je l'ai revu il y a 2 jours, je l'avais vu au moment de sa sortie, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. J'étais un peu passé à côté, je l'ai revu, c'est un film qui m'a vraiment énormément plu, beaucoup plu. Et je trouve très bien que les deux films passent ensemble. Enfin. Et en fait, je me suis rendu compte en revoyant mon film il y a 2 jours qu'il manquait quelque chose dans ce film, c'est Trieste. Trieste qui est présent dans l'œuvre de Svevo. Mais je fais avec ce film ce que je dis pourtant au départ ne pas vouloir faire, c'est que je ne fais que parler de la vie de Svevo. Et étonnamment, alors que j'ai passé beaucoup de temps à Trieste, j'y ai même vécu, et j'ai tourné beaucoup, beaucoup d'images. Il y en a très peu dans mon film, ça m'a frappé. Hein. Alors que le stade de Wimbledon, même si son titre ne le laisse pas penser, est vraiment un film autour de Trieste. C'est un film où on découvre la ville, et d'une certaine façon, même s'il est bien plus que ça, et c'est un film très très beau et très réussi, je trouve qu'il vient... combler aussi, il a aussi cette force-là, il vient combler un manque. Trieste, la ville que l'on ne découvre pas dans mon film, on découvre la ville après dans le film d'Amalric, superbement filmé avec Trieste que je connais, mais aussi des lieux, des endroits que je ne soupçonnais même pas. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est un film à voir. Et beaucoup de gens, j'ai pu en parler un petit peu avant, beaucoup de gens sont déroutés par le titre. Il ne voit pas le lien avec l'Italie, avec Trieste. Et bon, le titre fait référence juste à une dernière scène du film. Donc, c'est peut-être pas un bon titre, d'ailleurs. Tout comme La conscience de Svevo n'est peut-être pas un bon titre non plus. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon film, le film d'Amalric.
Donc, on ne peut qu'encourager les Diois de venir voir ces deux films qui ne passent sans doute pas à la télévision tous les jours.
Plus maintenant, c'est un film, le mien est passé... Bien sûr, celui d'Amalric aussi, mais c'est un film qui a 15 ans, donc maintenant la télévision, on a changé de format, on a changé de plein de choses. C'est un film qui passerait plus, non ?
Eh bien, Yann Sinik, merci et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.